vivant dans nos mémoires.
À l'émission « Vivant dans nos mémoires », nous vous proposons une entrevue avec Jean Larrain, journaliste et avocat. Il est décédé en mars 2023. Yves Houde l'avait rencontré lors de cette entrevue réalisée en octobre 2021.
Plusieurs des auditeurs vont reconnaître sans doute cette voix pour l'avoir entendue lors de reportages à de nombreuses occasions, de reportages de télévision, de reportages à la radio de la Société Radio-Canada. Jean Larrain, bonjour.
Bonjour.
En mars 2020, Jean Larrain, c'est à peine un mois après la déclaration du confinement pour les 70 ans et plus, et déjà vous commencez à sentir une sorte de vide qui s'installe. Ouais. C'est juste un mois après le confinement. Vous avez toujours été pressé comme ça par les événements qui vous paralysaient?
Disons que la patience, c'est pas ma principale vertu. J'y travaille et j'aurai sans doute à le faire jusqu'à la fin de mes jours. Et je sentais un passage à vide. Et je sentais que ma vie avait moins de sens et qu'il fallait que je trouve, et j'entrevoyais que cette pandémie-là allait durer, donc je cherchais absolument une occupation qui occuperait mes loisirs, surtout ma pensée. Alors donc, j'ai trouvé.
Mais qu'est-ce que vous faisiez juste avant cette déclaration du mois de mars de confinement? Qu'est-ce que vous faisiez qui vous occupait tant et qui fait que la pandémie vous a séparé de cette occupation-là et vous a créé ce vide?
Ben, écoutez, j'ai des amis, j'ai un groupe d'amis, on se voyait souvent dans des restaurants pour discuter, pour échanger. Je faisais beaucoup de sport, j'ai tout fait. Beaucoup de sport, donc je fais des sorties, et donc des sorties en vélo en particulier, et l'hiver je faisais du ski, donc j'étais très très occupé, je voyageais beaucoup. Habituellement, les périodes qui pour moi sont plus difficiles en termes de sport, c'est-à-dire le printemps et l'automne, c'était des occasions pour moi de voyager. Et donc je voyais pas vraiment d'issue à cette pandémie qu'on nous annonçait longue et virulente. Et donc, j'étais pris d'une inquiétude pour, en effet, qu'est-ce que j'allais faire pendant ces mois. Et il fallait absolument que je trouve une occupation.
Et donc, comment avez-vous contré la chose?
Alors, c'est un peu par hasard. J'ai une recette et ça m'a toujours bien servi. Quand je suis dans un passage à vide, je passe à l'action. Et on était au mois de mars, puis il faisait encore frais, puis j'ai sorti mon vélo. Et je me suis mis à faire une petite sortie, évidemment pour me délier les jambes, parce que comme c'était la première sortie de l'été. J'ai senti immédiatement une forme de liberté m'envahir. L'angoisse qui m'habitait est presque disparue instantanément. Et là, je savais que j'étais pour trouver, je ne savais pas encore quoi, mais je savais que j'étais pour trouver. Parce que c'était la recette que j'ai toujours employée et qui m'a toujours si bien servi dans la vie. Alors donc, des circonstances sont survenues et qui m'ont inspiré d'écrire les confidences. Et la première chose, c'est que j'ai entendu Jeannette Bertrand, cette vénérable dame qui a eu tellement d'influence et qui continue à en avoir au Québec, qui, dans une entrevue avec Patrice Roy, encourageait les personnes aînées à écrire pour informer leurs enfants et leurs petits-enfants sur leur vie, parce que elle prétendait avec justesse, j'en suis maintenant convaincu, que les enfants et les petits-enfants voient leurs aînés avec des cheveux blancs, avec des rides, comme s'ils avaient tous été vieux. Ils n'avaient vraiment rien fait d'autre que d'être vieux dans la vie. Alors donc, elle encourageait donc des personnes à écrire leur vie pour informer leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors c'était... Ça a été un premier événement. Et le deuxième, c'était Denis Vaugeois, qui est un historien bien connu et qui s'apprêtait à écrire, lui aussi, pendant la pandémie, une biographie de son cousin, Sylvain Vaugeois, qui est un homme d'affaires pour lequel j'ai été avocat. Et Sylvain Vaugeois s'est particulièrement illustré par la création de la Cité du multimédia Montréal et aussi, surtout, devrais-je dire avant, par il a été l'artisan qui a fait en sorte que Ubisoft est venu s'installer au Québec. Et donc, ça a été le début du multimédia au Québec, qui s'est répandu éventuellement à Montréal, Québec, au Saguenay, un peu partout, et qui fait du Québec aujourd'hui une plateforme importante dans ce domaine-là. Alors, Denis Vaugeois, donc, prend contact avec moi, parce que j'étais donc l'avocat de son cousin Sylvain Vaugeois, et je lui raconte, en gros, je réponds à ses questions, et pour vérifier un peu qui j'étais, il a été sur Internet et a vu que j'avais un CV qui lui paraissait attrayant et intéressant, et il m'a incité à écrire lui aussi mes mémoires. Donc, deux personnes, coïncidence, en quelques semaines, qui m'encourage à écrire ma biographie. Moi, je trouvais que je n'avais vraiment rien à dire, honnêtement. Là, vous savez, quand on vieillit, puis surtout depuis que j'étais à la retraite, ça faisait quand même une douzaine d'années que j'étais à la retraite, et j'avais l'impression que je ne servais plus à rien, que j'étais devenu obsolète. Et la société, notre société actuelle est ainsi faite que des personnes avec des cheveux blancs, ben, on s'en préoccupe moins, particulièrement les jeunes. Tu déambules sur la rue, puis c'est à peine si on est visible à leurs yeux. Et ben, même mes proches ne me demandaient plus de conseils. Quand j'étais actif, un membre actif dans la vie, j'étais avocat à la fin de ma vie, donc on me posait souvent des questions pour avoir des avis juridiques gratuits. Mais ça faisait un bout de temps que ça ne se produisait plus. Donc, pour moi, disons que mon estime de moi-même n'était pas très élevée et donc entrepris sans vraiment d'ambition, j'ai entrepris l'écriture de ces confidences.
Et est-ce que la production de ces confidences, ou en tout cas l'écriture, le fait de ramasser vos souvenirs, est-ce que ça vous a redynamisé, ça vous a redonné une importance aux yeux des plus jeunes?
Je ne sais pas. Il faudrait leur demander, mais je sais qu'à mes yeux, moi, ça m'a fait du bien.
Bon, mais
alors, c'est... je dirais que c'est surtout ça que je retiens.
C'est l'important, en effet. Mais Jean Larrain, je reviens à cette proposition de Jeannette Bertrand aux personnes aînées d'écrire leur histoire pour que les plus jeunes le sachent. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses que vos enfants et petits-enfants ne savaient pas et que vous leur avez révélées dans ces confidences?
Je crois que oui. Parce que, évidemment, là, mes enfants, mes petits-enfants ont lu le livre. J'ai des amis proches aussi qui ne connaissaient pas toutes les tribulations professionnelles et personnelles de ma vie et qui en ont pris connaissance. Donc, c'était évidemment, finalement, après coup, je m'aperçois que c'était une œuvre utile pour moi là, et pour mes proches. Et je souhaite évidemment que le grand public y trouve aussi son profit.
Est-ce que dans cette perspective-là, il y a une sorte d'autocensure qui se pose? Vous dites que probablement que vos enfants et petits-enfants n'en savaient pas un certain nombre de choses que vous avouez dans ces confidences. S'ils ne le savaient pas, c'est que vous n'en aviez pas parlé, peu importe la raison. De devoir leur en parler, est-ce que vous avez sélectionné des choses à dire et des choses à ne pas dire?
Oui. Pas mais pas de façon systématique. Ce que j'ai évité de faire, c'est que pour moi, en écrivant ces confidences-là, c'était pas l'occasion d'un règlement de compte. Donc ça, pour moi, en partant, là...
Mais il y en a eu un ou deux, quand même.
Oui, mais je pense que c'est peut-être indirect.
C'est pas méchant.
Frontal.
C'est pas méchant.
Et c'était pas le... Vous savez, dans toute ma carrière, j'étais vraiment un guerrier. J'étais quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, qui ne craignait pas le danger, non plus le conflit, même que parfois, je recherchais des conflits parce que je m'en sortais bien et puis ça m'animait. Ça me forçait à trouver des solutions. Donc, pour moi, c'était... Tandis que dans ses confidences, disons que c'est un guerrier fatigué qui écrit ses confidences-là. C'est un guerrier assagi qui écrit ses confidences-là.
Oui, mais c'est justement cette image du guerrier que vous apportez qui explique que lorsque le guerrier n'a plus de guerre, c'est peut-être ce qu'il a créé, justement, ce qui crée un peu cette désillusion chez l'homme que vous étiez devenu.
Écoutez, je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez peut-être raison.
Ouais. C'est peut-être, vous avez besoin d'une guerre pour vous animer, vous.
peut-être. Quand... Je n'en ai jamais manqué. Ouais.
C'est une chose de vouloir écrire pour ses enfants et ses petits-enfants et révéler un certain nombre de choses de votre intimité. De décider de l'ouvrir au grand public, c'est un autre pas. Et c'est une autre censure ou pas?
Non. Écoutez, c'est tout à fait le même livre parce que moi, j'avais l'intention, j'en ai fait une autopublication d'ailleurs, avec un tirage très, très limité. Et c'est un de ces titres-là qui est tombé entre les mains de la maison Septentrion, puis cette maison d'édition a trouvé que ça pouvait être intéressant pour le public. Alors donc, il n'y a pas vraiment de changement entre la publication limitée que j'avais conçue. Et ce livre, je dirais que ce livre est même plus complet parce que la maison d'édition m'a demandé de compléter certains chapitres, d'expliquer un peu mieux, de faire des mises en contexte que j'avais peut-être négligé de faire auparavant.
Si vous voulez bien, on va tenter de suivre votre parcours qui n'est pas particulièrement linéaire. À différents points de vue, le parcours professionnel et le parcours personnel. À quel trait de votre caractère attribuez-vous ce parcours fait de détours, de ruptures, de passions, de désillusions? Vous mentionnez tout à l'heure être un guerrier, mais oui. Le guerrier n'est pas nécessairement toujours dans ces formes de tempérament-là. Vous, quel trait de caractère s'illustre dans vos ruptures, dans vos... Vous faites à peu près... un cours classique, ça durait 8 ans. Vous faites à peu près des cycles de 8 ans le reste de votre vie. Au huit ans, vous changez de circuit.
Oui, écoutez, je n'avais pas fait le calcul, mais vous avez raison. Moi, ce qui m'anime encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui endure facilement l'ennui. Alors donc, quand un métier ou une profession commençait, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. À ce moment-là, je voulais voir autre chose. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. J'aimerais, dans le fond, idéalement, j'aimerais vivre plusieurs vies pour pouvoir tout connaître, tout ce qu'il y a à connaître sur cette planète, ce qui est absolument impossible. Donc, je voulais vivre toutes les expériences. Et c'est ce qui m'a amené à, comme vous dites, à changer tous les 8 ans. Et voilà, je vous ai dit en début d'entrevue que mon défaut, peut-être le plus évident, c'est l'impatience. Il faut que ça bouge. Et puis, par ailleurs, je dirais je suis un grand omnipraticien et non pas un spécialiste en quoi que ce soit. J'aurais pu rester en journalisme, mais dans le fond, qui était ma profession première. Et j'ai fait 25 ans, j'aurais pu continuer encore vingtaine d'années dans ce métier-là. Mais j'avais l'impression que j'avais fait le tour, un. Et aussi le fait que c'est un métier qui m'aurait demandé, encore une fois, de déménager de ville, déménager d'endroit. Et j'avais l'impression que j'étais devenu un peu un apatride. Mes racines commençaient à être vagues, commençaient à être difficiles. L'enracinement n'était pas fait. Et dans ma vie, je venais de rencontrer bon, j'avais des enfants, je voulais me rapprocher d'eux, puisque j'étais aux quatre coins du monde. Et j'avais aussi une nouvelle conjointe avec laquelle je voulais aussi m'installer. Donc, ça a été une raison pour laquelle j'ai quitté le journalisme à ce moment-là. Puis en plus, ben, comme je vous ai dit, j'avais l'impression d'avoir pas mal fait le tour.
Mais pourtant, ce journalisme-là vous offrait toutes sortes de dimensions très différentes d'être stationné à Montréal ou d'être à Ottawa ou d'être à Québec ou d'être à Londres ou d'être à Pékin. Vous avez eu toutes sortes de possibilités de variation ou de variété dans ce métier de journalisme-là. Mais enfin, vous décidez de passer à autre chose. Mais on va revenir à beaucoup plus loin en arrière. Vous commencez vos confidences en parlant de vos origines, de votre naissance, et vous dites que vous êtes l'aîné d'une famille de 5 enfants et vous affirmez avoir été aimé.
De 6 enfants.
De 6 enfants. Ah, vous avez 5 frères et sœurs. OK. Alors, ça donne 6. Vous dites, justement, de votre mère qu'elle était volontaire et ambitieuse pour elle et pour ses enfants également. Comment ça se manifestait, cette ambition ou ce côté volontaire de votre mère?
Ben d'abord, elle m'a... Écoutez, dès l'âge de 4 ans, elle m'a appris à lire et à écrire. Et puis, elle-même prenait des cours. Donc, c'était une personne, même si elle avait un cours primaire, qui était avide de savoir, qui voulait tout comprendre, tout savoir. Puis ensuite, elle avait un tempérament d'une chef. C'était vraiment le chef de famille chez nous. Mon père était quelqu'un de plus tendre, c'était un artiste, mais ma mère, c'était celle qui avait les deux pieds sur terre et puis qui menait la maisonnée d'une main de fer parfois. Et elle espérait beaucoup de performance de la part de son premier rejeton, en tous les cas. Et comme moi, ça même à cet âge-là, j'aimais performer, alors donc ça m'a réussi.
Jean Larrain, vous avez mentionné qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, même l'âge de 4 ans, vous savez lire et écrire par les volontés de votre mère. À 5 ans, vous commencez l'école. Il n'y avait pas de maternelle à l'époque. On commençait en première année. Vous sautez la 5e. Vous aimiez apprendre? Vous aimiez l'école? Ou si ces règlements et ces exigences vous contraignaient?
Non, j'aimais beaucoup l'école. Il y a un professeur qui m'a beaucoup marqué. Je ne l'écris pas dans mon livre parce que son prénom, je ne m'en souviens plus, mais c'est un professeur qui s'appelait Lessard, dont le nom de famille était Lessard. Et c'est lui qui m'a fait sauter une classe. Et c'est lui qui m'a poussé. Puis c'est lui qui a dit à mes parents que j'avais beaucoup de talent, puis qu'il ne fallait pas me lâcher, puis que je pouvais aller loin. Et j'avais besoin de ça parce que j'avais des petits camarades. Moi, j'avais 10, 11 ans là, à ce moment-là, à l'école primaire. J'avais des petits camarades qui avaient 14 puis 16 ans, des personnes qui avaient doublé souvent, puis que les professeurs poussaient pour qu'au moins ils aient un diplôme d'école primaire. Donc, pour moi, c'était des adultes. Là. Puis, physiquement, les garçons à cette époque-là, ça se coltaille. Puis de se coltailler, quand vous avez 10 ans, vous avez à vous coltailler avec un autre camarade qui, lui, en a 14 ou 16, vous en mangez des tapes sur la gueule. Hein? Donc, j'aimais apprendre, mais j'aimais pas toujours l'atmosphère qu'il y avait dans la cour d'école. Et le professeur Lessard me défendait, lui, puisque les professeurs, à cette époque-là, nous accompagnaient durant les récréations. Donc, je me sentais au moins protégé de ce côté-là.
J'essaie de vous situer géographiquement. Vous êtes né, c'est Outremont ou Notre-Dame-de-Grâce, le coin où vous avez grandi. Je sais que vous êtes né à l'extérieur de Montréal, mais la maison familiale où vous avez grandi, c'était Outremont ou Notre-Dame-de-Grâce?
C'est Notre-Dame-de-Grâce. Écoutez, c'est Snowdon qui est une partie, la partie pauvre de Notre-Dame-de-Grâce. Et qui était aussi à l'époque presque une campagne. Hein. Il y avait un côté bucolique, c'était pas très aussi développé que ce n'est maintenant. Donc, mon père est né là. C'était la maison paternelle, en quelque sorte. Et la maison d'origine, d'ailleurs, une petite maison toute humble que mon père éventuellement a vendue, puis il s'est construit directement derrière, pas quitté de quartier, mais construit un duplex. Nous sommes déménagés en 1949 ou 50 dans cet endroit-là. Donc, c'est dans Snowden où je suis né. À cette époque-là, un quartier extrêmement multiculturel. Mes petits camarades de l'époque étaient des anglophones, des juifs d'origine, donc c'était très multiculturel.
Votre père était plombier, donc c'est le milieu ouvrier. Et, oui. Et dans ce quartier de Snowden, est-ce que vous étiez marginaux ou si vous étiez un peu comme tout le monde?
Comme tout le monde.
C'était le cas de la majorité. Oui. À 11 ans, vous l'avez mentionné, à cause de votre précocité scolaire, à 11 ans, vous êtes apte à entrer au collège.
Oui.
Les parents ne sont pas suffisamment riches avec la famille qui grandit. On n'a pas l'argent pour vous faire étudier. Et là, il y a une passe qui s'ouvre dont votre mère entend parler et qu'on va utiliser pour vous permettre de faire des études avancées.
C'est ça. Écoutez, moi, j'étais enfant de cœur pour gagner des sous. Pour vous le dire immédiatement, j'avais pas, évidemment très jeune, j'avais pas de grosses convictions religieuses. Là. C'était pour moi un travail qui m'apportait 10 cents la messe ordinaire. Des fois, j'en servais deux le matin, puis des fois, j'étais servant de messe au mariage, au funérailles, c'était un peu plus payant. Et il y avait le vicaire de la paroisse qui accompagnait les enfants de cœur et qui aussi venait à l'école primaire de temps à autre. Il y avait la visite des prêtres à l'époque et pour nous faire l'enseignement religieux. Et ce vicaire-là avait remarqué que j'étais assez doué intellectuellement, j'étais précoce et il trouvait dommage que je ne puisse pas continuer mes études parce que pour une famille d'ouvrières à l'époque, le chemin scolaire, académique était tout tracé. C'était l'école publique jusqu'en 11e, 12e année. Bien, c'était le terminus. Et puis l'université était presque impossible à ce moment-là. Donc, ce prêtre a dit à mes parents, écoutez, il pourrait devenir prêtre. Et si vous arrivez à convaincre l'œuvre des vocations, et d'ailleurs je suis prêt à faire une recommandation en ce sens, vous pourriez obtenir une bourse d'études qui permettra à votre fils de commencer des études classiques. Alors c'est par cette filière-là que je me suis retrouvé au Collège de Montréal. Et n'eût été de l'intervention de ce vicaire-là, probablement que je n'aurais jamais fait d'études avancées.
Oui. C'est pas le bonheur parfait lorsque vous arrivez au Collège de Montréal. D'abord, vous êtes petit parmi les plus grands, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Et vous êtes un peu contraint par les règlements et autres. Vous avez presque envie de laisser... votre mère finit par vous convaincre d'y rester. C'est le sport qui va vous sauver, Jean Larrain, au séminaire. Parce qu'en fait, le Collège de Montréal, c'était le petit séminaire de Montréal.
Oui, c'est le sport. Parce qu'en plus, après 2 ans au Collège de Montréal, comme j'étais un peu rebelle, à l'époque, c'était le début du rock'n'roll, je me coiffais avec un coq là, élevé comme Elvis Presley, et puis j'avais commencé à fumer en cachette, et puis donc il m'avait ma bourse de l'œuvre de vocation m'a été enlevée, littéralement, il me l'avait donnée, ils me l'ont enlevée. Mais le plafond de verre avait été défoncé. Maintenant, moi, au collège, j'avais plus peur, puis je savais que j'avais ma place là, puis je voulais continuer. Alors donc, j'ai commencé d'abord, mon père m'a dit, pour compenser la perte financière de l'œuvre de vocation, il m'a invité à travailler sur les chantiers de construction en plomberie, et il est entrepreneur lui-même à ce moment-là, donc, me suis fait les bras, les épaules en filant du tuyau de 2 pouces là, à bras parce que, puis de monter des longueurs de fonte. Parce qu'à l'époque, pour filer le tuyau, il n'y avait pas de fileuse électrique, donc il fallait travailler fort. Alors, le préfet de discipline de l'époque, qui était un prêtre aussi, qui a eu beaucoup d'influence dans ma vie positive, et qui, lui, voyait que j'étais un peu rebelle, puis que j'étais un jeune homme qui avait besoin d'activité. J'étais hyperactif. Donc, il s'est dit, peut-être que le football va lui permettre de
canaliser.
Canaliser, de se ventiler et puis de se réaliser. Alors, il m'a inscrit dans l'équipe de football et les entraînements avaient déjà été en cours, mais moi, je venais d'un entraînement tout l'été sur les chantiers de construction, donc j'ai pas eu besoin d'entraînement. J'étais devenu un jeune homme très fort et puis j'ai eu du succès au point que j'ai eu des bourses d'études de la Banque d'épargne du Canada pendant plusieurs années jusqu'à la rhétorique. Et donc, ça m'a permis de poursuivre mes études.
Le cours classique terminé, Jean Lorrain, vous devez choisir une faculté universitaire et vous êtes tellement... tout vous est possible, mais en même temps, vous savez pas du tout où aller et vous dites avoir tiré à pile ou face entre sciences politiques et droit. Et c'est tombé, je sais pas, sur face ou sur pile, mais en fait, c'est tombé sur ce que vous aviez choisi pour sciences politiques. C'est ce que vous avez fait.
Tout à fait. Parce que j'étais déjà passionné de politique à l'époque, là. Moi, je courais les discours politiques. J'ai assisté aux discours de tribuns comme Camillien Houde, comme Réal Caouette, comme Pierre Bourgault. Moi, leur talent d'orateur me fascinait absolument. Et comme dans ma famille, mes frères et sœurs étaient camelots pour le journal Le Devoir. On avait à notre disposition tous les jours le journal du Devoir que je lisais systématiquement. Je m'intéressais déjà, on était en pleine révolution tranquille, il faut pas l'oublier, là. Et donc, je m'intéressais beaucoup à la politique. Donc, il y avait deux professions qui pouvaient, si vous voulez, m'amener à m'intéresser à la politique, c'était sciences politiques et droit. Et effectivement, vous avez raison, j'ai vraiment tiré à pile ou face, puis je me suis retrouvé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal.
Et comment, des sciences politiques, êtes-vous arrivé au journalisme?
Oh, par hasard, parce que je n'avais jamais même écrit dans un bulletin paroissial ou encore dans les journaux étudiants. Je n'avais jamais fait de journalisme. Et je me suis retrouvé à Ottawa quand j'ai eu mon diplôme de sciences politiques en poche. Et à l'époque, la fonction publique québécoise était en pleine formation et les sirènes, on avait des recruteurs qui venaient à l'université pour nous inciter à travailler pour le gouvernement du Québec. Et j'ai beaucoup de mes camarades masculins et féminins qui sont laissés séduire par ça. Mais moi, je me suis toujours méfié des mouvements de foule. Alors, parce que tout le monde allait à Québec, moi, j'ai décidé d'aller à Ottawa. Pas par conviction politique, tout simplement parce que je suis un peu contrarieux dans la vie. Et je me suis retrouvé par une filière du ministère des Affaires extérieures. À l'époque, ça s'appelait pas le ministère des Affaires étrangères. Je me suis retrouvé dans une ONG qui était financée par le ministère des Affaires extérieures et qui s'occupait de l'accueil des étudiants étrangers au Canada. Donc, ça m'a permis d'abord de travailler en anglais. Écoutez, ce n'était que de l'anglais. Moi, qui avais été diplômé en français, je me suis retrouvé à Ottawa et j'ai dû parfaire mon anglais. Mon anglais qui datait de la rue dans Snowdon quand j'étais gamin. Et ça a été un cours intensif d'apprendre l'anglais. L'emploi m'ennuyait. Honnêtement, après 9 mois, j'avais l'impression de faire le tour. Et je me suis mis à écrire à peu près à tout ce qu'il y avait d'employeurs qui pouvaient m'intéresser dans les pages de carrières et professions des journaux. Et les premiers à me répondre ont été Radio-Canada à Ottawa. Donc, je me voilà devant Radio-Canada à Ottawa. Et le directeur du service des nouvelles était un anglophone unilingue et qui me faisait l'entrevue pour le journalisme en francophone, en français, pour le service des nouvelles français. Et je l'ai épaté par mes connaissances en anglais. J'avais vu plus de villes au Canada que lui. J'avais des études, un diplôme. Il était assez rare à l'époque que des journalistes possédaient une maîtrise, au moins la scolarité de maîtrise en sciences politiques. Donc, j'étais plus scolarisé que d'habitude pour ce genre de profession-là. Donc, immédiatement, ils m'ont embauché. Alors, c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Je ne savais même pas écrire à la machine. Je ne savais rien de ce métier-là. Je l'ai appris vraiment, comme on dit, sur le tas.
C'est à Ottawa que s'ouvre la porte du journalisme. Bientôt, vous allez être rapatrié du côté de Montréal. Vous arrivez dans une salle de nouvelles où sont bien installés des personnalités fortes de l'époque, qu'on pense à Claude-Jean de Virieux, à Judith Jasmin, à Pierre Nadeau et autres. C'est impressionnant pour un garçon de 25 ans qui arrive tout jeune. Mais je passe rapidement pour dire que votre arrivée à Montréal correspond avec le début de certaines violences, mettons, dans la société de Montréal. C'est Saint-Léonard, les Italiens de Saint-Léonard français, c'est McGill français. Il y a toutes sortes d'événements comme ça qui se présentent. Vous êtes au front. On vous envoie comme pour couvrir la politique à Québec et vous arrivez là en plein Bill 63. Vous êtes là au moment de l'élection à la chefferie du Parti libéral qui élit Robert Bourassa. Vous êtes là pour les élections de 1970 déclenchées par Jean-Jacques Bertrand. Vous serez là aussi pour les troupes d'octobre. Vous êtes comme toujours au front. D'événements assez turbulents. C'est le guerrier du début là qui est bien nourri.
En même temps, ce que, à cette époque-là, puis je pense que c'est le cas, les journalistes qui sont comme ça, qui suivent l'actualité, mais en tout cas, pendant cette époque-là, j'avais l'impression, honnêtement, de participer à l'écriture de l'histoire, une partie de l'histoire du Québec. Et donc, c'est absolument fascinant pour un jeune homme comme moi qui avait une formation en sciences politiques, d'avoir sous mes yeux, je vais dérouler ces événements-là, dont la crise d'octobre qui était absolument inusitée, là. Et d'ailleurs, les politiciens ne savaient pas par quel bout prendre cette crise-là, puis les journalistes non plus. Il y avait un premier ministre, Robert Bourassa, qui avait 36 ans à l'époque, et moi, j'avais 27 ans au moment où je couvrais ces événements-là. Donc, on était des genoux, suivre ces événements-là et à tenter de rapporter le mieux possible ce qui se passait.
Ce qui est intéressant de lire dans vos confidences, Jean Larrain, c'est que vous arrivez à couvrir cette première campagne électorale, enfin pour vous, là, peut-être la première campagne électorale, celle d'avril 1970, et c'est presque folklorique ce que vous nous racontez. La façon dont les campagnes électorales se faisaient, c'est juste 50 ans derrière nous, là, ben, peut-être rendu... Non, c'est une cinquantaine d'années derrière nous, et c'est presque folklorique. Vous voyagez dans des avions qui sont absolument inconfortables. Le ralliement créditiste est obligé de passer le chapeau à ses rassemblements pour se faire de l'argent pour payer au moins la salle où ils se sont rassemblés. C'est assez étonnant d'entendre ces récits-là.
Oui. Mais c'était ce qui se passait à ce moment-là. Les partis politiques, faut pas oublier que le Parti québécois et le Ralliement national, sous Camille Samson, c'était des partis qui débutaient, donc il n'y avait pas beaucoup de sous. C'était moins le cas pour le Parti libéral, l'Union nationale, qui avait des autobus, du confortable, qui avait des avions également pour parcourir les longues distances. Mais dans le cas du Ralliement national, on n'avait même pas l'horaire des déplacements du chef Camille Samson. On était informé le matin, il fallait sauter dans notre voiture puis conduire à des vitesses folles pour se rendre sur place. Le Parti québécois est un petit peu mieux organisé, mais guère mieux. Alors oui, il y avait un côté folklorique et je pense aussi que je rapporte une anecdote avec le premier ministre Jean-Jacques Bertrand qui connaissait pas les signaux qui sont d'usage dans la profession de journaliste quand le journaliste demande au caméraman de tourner, il fait un rond autour de son oreille, et puis quand il dit de couper, c'est un signe de comme s'il y avait un couteau sur le cou. Et un jour, je demande au caméraman, au cours d'un rassemblement de l'Union nationale, au cours duquel Jean-Jacques Bertrand est en pleine envolée, je demande au caméraman de tourner, et je fais le signe avec ma main de tourner, et lui pense que je dis de lui pendant qu'il est en train de parler, il croit que je le traite d'idiot. Et là, il dit devant tout le monde, Jean Larrain, si vous êtes pas content, vous n'avez qu'à sortir, vous n'avez pas le droit de commenter mes propos. Et là, moi, je suis un peu étonné, et j'étais plus qu'étonné parce que j'ai vu les partisans qui voulaient s'en prendre à moi à ce moment-là, j'ai été défendu par les agents de sécurité. Et j'ai eu, heureusement, la chance d'aller m'expliquer immédiatement après avec le premier ministre Jean-Jacques Bertrand. Et quand je lui ai expliqué un peu la raison d'être de ces signaux-là, ben, on a bien rigolé tous les deux.
Oui. Je mentionne comment vous avez été au front de nombreux événements marquants de notre société. Une première affectation, je pense, à l'extérieur du Canada, c'est Washington, et c'est à l'époque du Watergate.
Oui.
Donc déjà, même quand vous allez aux États-Unis, vous êtes sur le front de quelque chose d'important.
Oui. Mais c'est un premier contact avec le reportage à l'étranger. Et évidemment, il y avait le Watergate et j'étais secondé le correspondant qui était résident à Washington à ce moment-là, qui s'appelait Lucien Millet. Et lui qui était complètement débordé parce que tant la radio que la télévision lui demandaient des reportages, des affaires publiques. Enfin, c'était un moment qui était absolument excitant. On était tous complètement emballés et en même temps débordés. Et c'est là que j'ai compris aussi que quand on va à l'étranger, il est difficile d'être meilleur que les journalistes locaux. Vous pouvez pas, vous savez, à Washington, il y a je sais pas combien, il y a peut-être aujourd'hui un millier de journalistes américains en plus des journalistes étrangers. Puis quand vous êtes journaliste canadien, vous êtes un de ceux-là. Alors, il fallait donc, c'est là que j'ai appris qu'il fallait absorber ce que les journalistes locaux les plus crédibles écrivaient ou disaient. Essayer d'en faire une synthèse, ça donne rien d'essayer de refaire ce qu'ils ont fait comme démarche. Et donc, c'était un travail de synthèse, surtout qu'on faisait. J'ai appris donc que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner, et non pas tenter de
refaire le monde.
De l'emporter sur le journalisme local.
Oui, tout à fait. Parmi les affectations, en fait, Washington, vous le mentionnez, vous êtes allé donner un coup de main à celui qui était déjà en poste. Votre volonté, votre désir à vous n'était pas nécessairement, en pensant à l'extérieur, c'était pas d'aller à Washington, c'était d'aller à Hong Kong.
C'est vrai. Ça n'a pas eu lieu. Ils m'avaient dit, tu t'en vas à Washington, il n'est pas si vraisemblable que tu ne reviennes pas à Ottawa, puisque on va te prendre de Washington et on va t'envoyer à Hong Kong. C'était pas des promesses fermes, mais c'était de fortes allusions, parce qu'ils peuvent pas quand même promettre ça. Il y a tout le temps un affichage, il y a tout le temps des choses semblables. Alors donc, moi, en tous les cas, j'étais convaincu que j'irais à Hong Kong. Et pendant que j'étais à Washington, j'apprends que Radio-Canada venait d'abolir le poste à Hong Kong. La guerre du Vietnam commençait à tirer de la patte, on sentait la faim, et le correspondant à Hong Kong passait une grande partie de ses affectations au Vietnam. Et donc, on me dit, Hong Kong, c'est terminé, mais tu retournes à Ottawa, il y a peut-être Londres qui éventuellement va s'ouvrir. Et donc, je suis revenu à Ottawa, à mon poste, au poste que j'occupais précédemment. Et voilà, j'ai attendu que le poste de Londres s'ouvre, ce qui s'est fait peut-être 6 mois ou 1 an plus tard.
Londres, ça a été, jusqu'à un certain point, j'oserais dire, ça a été une chance. Parce que normalement, l'Europe était gérée par Paris, mais là, Paris était très occupé avec des nouvelles relations avec le Québec. Et ouais. C'est Londres qui a pris un peu le leadership, et vous avez été envoyé à peu près partout en Europe à ce moment-là.
Oui. Écoutez, Paris était, comme vous le dites, était préoccupé par la crise nationale au Québec. Et donc, tous les ministres québécois qui allaient à Paris, puis il y en avait une foule, là, c'était des allers-retours constants. Alors, ce qui fait qu'on demandait aux correspondants résidents à Paris de rester à Paris. Alors, donc, ce qui laissait le chemin libre aux correspondants de Londres d'aller un peu partout dans le monde. C'est dans ce sens-là, oui, que ce fut une chance pour moi.
Vous avez rayonné, vous êtes allé au Maroc, en Afrique, en Islande, en Irlande, au Portugal, au Liban, en Israël, en Roumanie. C'était toujours sur des plateaux de conflits?
En grande partie, oui, ou des choses absolument inusitées. Et heureusement que j'avais avec moi une équipe qui était une équipe qui avait fait le Vietnam. Et donc, qui savait comment agir dans les zones de conflit. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les journalistes qui vont au front, là, on les entraîne. Ils subissent un entraînement. Ils ont des équipements. Ils ont une veste pare-balles. Ils ont un casque pour les protéger. Moi, j'ai rien eu de tout ça, là. Mais non plus que les caméramans avec les preneurs de son avec qui je travaillais. C'était, vous voulez aller, allez-y. Et puis, c'était comme ça. Donc, j'ai subi le mentorat de l'équipe technique qui m'apprenait comment réagir quand il y avait des moments plus difficiles et le danger s'avérait. Et il y en avait un en particulier, un preneur de son, qui lui avait été fait prisonnier au Vietnam. Il est fait prisonnier par le Viet Cong pendant 6 mois. Et qui s'en était sorti un peu par chance parce que lui, c'est un Français et son grand-père, c'était un général connu des Nord-Vietnamiens et qui avait été en intelligence avec les Nord-Vietnamiens. Et c'est à travers cette filière-là qu'il s'est fait libérer. Et donc, lui, il se retrouve à Londres et il me disait, moi, il n'est plus question que je me fasse faire prisonnier. Je te dis, là, me fait tuer, c'est moins pire que d'être prisonnier. Alors, il me dit, quand je dirais, ça sent la guerre, en français, il est comme les Français disent, on se tire. Là, ça voulait dire qu'on montait dans l'auto et puis on décampait complètement. C'est arrivé à quelques occasions. Et il avait vraiment développé, vous savez, comme certains animaux, cette espèce d'instinct animal qui sent le danger avant que le danger arrive. Et il m'en a fait la preuve plusieurs fois et vraiment, il a été mon mentor, puisque j'ai beaucoup appris avec lui.
Vous avez eu peur quelquefois?
Je vais répondre par une ironie qui n'en est presque pas. C'est que j'ai jamais manqué de scotch. Alors donc, j'étais pas en état d'ébriété quand j'allais au front, mais le soir, quand j'arrivais à l'hôtel, d'ailleurs comme toute l'équipe technique. On buvait pour essayer d'oublier les scènes absolument atroces parfois qu'on avait vécues, pour oublier un peu qu'on devait retrouver cette misère le lendemain. Donc, la façon de dormir le plus rapidement possible et le plus lourdement possible, c'était de s'enivrer.
C'est en réaction à ces états de stress que vous avez développé l'alcoolisme?
Mais surtout par l'annonce quand j'avais 27 ans, et j'étais à Québec à ce moment-là, que j'étais atteint de sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie épouvantable. Parce que en plus, à cette époque-là, c'était pas très connu. Et moi, on m'avait assez brutalement informé que je souffrais de cette maladie-là, qui est une maladie dégénérative du système nerveux, évolutive. Et j'avais perdu un œil, la vision d'un œil. Et pendant une douzaine d'années qui ont suivi, il m'arrivait de perdre l'usage d'un membre. J'étais incapable de signer mon nom avec une main. J'avais la moitié du visage paralysé. Et je devais constamment vivre avec des seringues. À l'époque, le traitement, c'était de la cortisone et de la vitamine. Je m'injectais de la cortisone et de la vitamine quand j'étais en crise. Donc, c'était une raison supplémentaire parce que les poussées de sclérose en plaques survenaient dans mon cas, survenaient le matin en me réveillant. Alors, j'étais terrorisé de vraiment là, m'endormir pour moi. Si j'avais pu ne jamais dormir, j'avais l'impression que si je ne dormais pas, je m'épargnerais de nouvelles poussées de sclérose en plaques. Mais il faut dormir dans la vie, puis ben, l'alcool m'aide à dormir. Alors, ça a été mon anxiolytique pendant une douzaine d'années. Alors, donc, c'est ce qui a développé, évidemment, puis en plus de ça, comme je vous ai expliqué, il y avait des choses atroces que j'ai vues dans les zones de guerre. Alors, tout ça m'a aidé à survivre.
Oui, et peut-être que c'est ce qui vous a aidé tout à coup à changer d'orientation, de profession. Vous avez fait le tour, vous êtes revenu à Radio-Canada, vous avez fait le tour un peu, encore une fois, comme on mentionnait, de toutes les affectations que pouvait vous offrir le journalisme. Vous décidez, vous aviez tiré à pile ou face un jour, c'est tombé sur un côté qui vous envoyait en sciences politiques, l'autre côté c'était le droit. Vous avez dit, ben, pourquoi je n'irais pas faire l'autre côté de la pièce de pile ou face? Et vous êtes allé faire votre droit, vous aviez 45, 48 ans à l'époque.
Oui, 45 ans.
45 ans, comment on se retrouve sur les bancs d'école?
Ben, d'abord, peut-être que je devrais vous expliquer que ce qui est d'abord survenu, c'est que j'ai rencontré un jour où j'avais l'impression de perdre l'autre œil, puisque l'œil droit, présentement, je l'avais perdu. J'avais perdu complètement la visibilité de ce côté-là. Maintenant, j'ai peut-être 20 % de visibilité. Mais un jour, j'ai l'impression que je suis encore journaliste à ce moment-là. J'ai l'impression que je suis en train de perdre la vision de l'autre œil. Et je vais voir le neurologue et qui me dit non, c'est pas la sclérose en plaques. À ton âge, j'avais 40 ans, 41 ans à ce moment-là. Et il me dit, à ton âge maintenant, tu as passé la période la plus dangereuse qui est de 27 à 40 ans pour un homme. Donc, il est peu probable que tu subisses de nouvelles poussées aussi importantes que tu as eues. Et moi, jusque-là, je buvais notamment parce que j'avais l'impression que j'étais pour mourir, que j'étais pour être paralysé complètement. Puis, donc, c'était mon anxiolytique. Puis là, le médecin, en me disant que j'étais pas si atteint que ça de sclérose en plaques, il venait de m'enlever une forme d'alibi. Alors donc, j'avais plus de raison de boire autant puis de me comporter parfois comme je le faisais. Donc, j'ai arrêté de boire. Je suis entré chez les Alcooliques Anonymes. Et une fois devenu sobre, j'ai aussi rencontré la conjointe qui est encore avec moi aujourd'hui. Cette combinaison de choses a fait en sorte que là, j'avais la pleine possession de tous mes moyens. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse d'autres choses. Probablement que j'aurais continué à boire, je serais mort aujourd'hui, honnêtement. Et donc, le fait de devenir sobre et devenir en pleine possession de mes facultés m'a permis de dire, je peux faire autre chose. Et ça s'est décidé très, très rapidement, tout à fait par hasard. J'ai un voisin qui me demande d'aller, j'étais journaliste, d'aller faire une conférence à la faculté de droit dans sa classe sur le rôle d'une démocratie formelle en démocratie, ce que je m'exécute et à la fin, il me demande, puis, comment as-tu aimé ça? Quelles sont tes impressions? J'ai dit, moi, ce qui suscite mon envie, c'est que j'aurais tellement mieux été, j'aurais aimé ça être à la place des étudiants. Il me demande, mais pourquoi tu ne fais pas ton cours de droit? Qu'est-ce qui t'en empêche? Évidemment, quand tu as trois enfants qui sont à l'université et puis un à un collège privé, c'est tout le temps la question monétaire. Donc, j'ai dû régler ce problème. Là, j'avais une maison que j'avais vendue, mon argent était à la banque. Et je me suis dit, puis en plus, Radio-Canada a accepté de me donner une première année comme année sabbatique. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Commence la première année, puis je me donnais la permission de rebrousser chemin et de continuer en journalisme. Mais j'aimais ça, j'aimais les études en droit. Donc, je les ai terminées très, très rapidement. Et j'ai fait mon barreau très rapidement aussi, puis j'ai ouvert ma pratique de droit. Voilà.
Jean Larrain, on pourrait continuer encore longtemps. L'obligation de s'arrêter étant là, merci beaucoup pour cette confiance et merci pour ces confidences qui sont publiées chez Septentrion. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci, au grand plaisir.
Vous venez d'entendre « Vivant dans nos mémoires » avec Yves Houd à l'animation. Il rencontrait Jean Larrain, journaliste et avocat, décédé en mars 2023.